On est parti. Quel est le rôle de la prophétie dans la Bible? Alors, je ne veux pas qu'on fasse une étude sur la prophétie, mais je voudrais apporter une petite précision. C'est que souvent, dans notre culture occidentale, empreinte de paganisme, de superstition, une parole prophétique a pour but de révéler des détails sur l'avenir, des choses particulières qui ne sont donc pas arrivées avec une précision folle. Par exemple, les Mayas, la fin du monde, le 21 décembre 2012, voilà, avec quelque chose de très apocalyptique, au sens païen aussi du terme. Voilà, on s'attend vraiment à une révélation et quelque chose d'extraordinaire, unique va arriver et tout le monde sera surpris. Dans la parole de Dieu, la couleur principale de la prophétie est de montrer que Dieu est souverain. Elles nous disent que Dieu est le Dieu de l'histoire avec un grand H. Il contrôle les événements, il les conduit selon son plan et le bon vouloir de sa volonté. Les prophètes, si on regarde par exemple le prophète Ésaïe, avaient comme principal objectif de rappeler le cadre de l'Alliance. Et les paroles des prophètes étaient toujours présentées avec, en rappelant la promesse si le peuple est fidèle et la malédiction si le peuple n'est pas fidèle. Et le prophète invite le peuple à l'obéissance et l'encourage en lui rappelant les bénédictions qui l'attendent et les promesses liées à l'alliance de Dieu. Alors les destinataires du texte de ce matin, les premiers destinataires étaient dans un contexte de persécution. Nous sommes à la fin du 1er siècle. En 64, la persécution a explosé malheureusement, à Néron, un empereur qui était totalement fou. Mais vraiment fou. On pourrait le comparer à un Hitler, à un Pol Pot, des personnages comme ça, des hommes d'une rage extraordinaire. Et il s'était focalisé en particulier sur les chrétiens. Et dans les jardins de Néron, à la fin du 1er siècle, pour illuminer les soirées, on mettait des chrétiens sur des pics et on les faisait brûler pour éclairer la soirée et que les convives puissent danser la nuit. En 67, Pierre et Paul ont été décapités. Jean est exilé sur l'île de Patmos. Et de là, il écrit une lettre, une circulaire, destinée aux églises d'Asie, qui sont dans ce contexte de persécution. Parce que le Seigneur veut parler à ces églises-là, il a des choses à leur dire, et donc, par Jean, il leur transmet ce message. Donc, vous l'aurez compris, je parle de l'Apocalypse, et voilà ce qu'on lit au chapitre 1 et qui pour moi est un texte qui nous explique, qui introduit ce qu'il va y avoir dans l'Apocalypse et qui nous permet après d'interpréter le reste du livre. Au chapitre 1, je vous le lis, il est dit « Quand je le vis, c'est Jean qui parle, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite, il posa sur moi sa main droite et disant « Ne crains point ». Nous sommes dans un contexte de persécution. Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont présentes et celles qui doivent arriver après elles, futures. Donc, ce que tu as vu, tu as constaté, celles qui sont maintenant et celles qui sont futures. Certaines personnes pensent que l'Apocalypse ne parle uniquement, comme prophétie, que de choses qui sont futures, qui vont se passer, et qu'il n'y avait rien du tout pour les chrétiens du 1er siècle. Mais ça serait vraiment unique Et ça serait une prophétie, un style prophétique qui serait totalement inédit, parce que les prophètes rappelaient l'alliance, les promesses de l'alliance, que Dieu est le Dieu de l'histoire qui rassure son peuple, et les prophéties rappellent aussi que Dieu est le Dieu de l'histoire. Ça, je l'ai déjà dit. Mais je pense que ces prophéties avaient pour but de révéler, d'encourager l'Église avec des choses qui allaient arriver, mais d'expliquer aussi ce qu'il se passe. Et je vais vous expliquer pourquoi. Jésus veut montrer à son Église persécutée les perspectives glorieuses de la fin des temps. Il reviendra, nous sommes tous d'accord. Il jugera la création, nous sommes tous d'accord. Et tous ses élus seront avec lui, nous sommes tous d'accord. Mais il veut aussi montrer à son Église qui souffre sa dynamique active et présente. Et je voudrais vous citer Don Carson, j'aime beaucoup cette citation de lui. Excusez-moi, j'ai oublié une diapo. Il dit donc que l'Apocalypse a pour but de nous montrer que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Je voudrais illustrer cette citation. J'ai une petite fille qui a les yeux bleus, Abigail. Elle a des yeux bleus comme j'en ai rarement vu, et je pense que c'est la plus belle petite fille du monde. Je suis totalement objectif. Je pense que, déjà, je lui parle beaucoup du Seigneur, elle comprend beaucoup de choses, et si je lui demande aujourd'hui d'où lui viennent ses yeux bleus, avec sa foi de petite fille, elle me répondrait de Dieu. Et je souhaite que ma fille fasse des études, qu'elle soit médecin, qu'elle passe un bac S, et si je lui repose la question, quand elle passera son bac S, qu'elle sera en terminale, et que je lui dis, Abigail, mais d'où te viennent ces yeux bleus? Il me dira, oui, tu sais, papa, nous avons des gènes, et puis il y avait un allèle avec la couleur bleue, et puis l'allèle s'est exprimé, donc voilà, c'est pour ça que mes yeux sont bleus. Dans les deux cas, sa réponse est vraie. Nous sommes d'accord? Mais quelle est la réponse la plus fondamentale? Quelle est la plus fondamentale? J'illustre autrement. Qui a crucifié Jésus? Les soldats romains? Pilate? Le peuple juif? Le Sanhédrin? Satan? Oui, ils ont tous participé, on dirait. Mais est-ce qu'il n'y a pas une réponse plus fondamentale? Que c'était le plan de Dieu, qu'il est allé lui volontairement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une perspective, une troisième dimension, une quatrième dimension, je ne sais pas comment le dire, mais il faut lire les choses en relief avec le regard, en ayant la perspective du plan de Dieu qui se déroule. Pourquoi, du coup, les chrétiens d'Asie souffrent? À cause de Néron? Oui. Mais y a-t-il une réponse plus fondamentale? Je vous propose que l'on regarde le texte d'Apocalypse 12 ensemble. Et nous allons voir, c'est introduit comme étant un signe. Et il me semble que ces signes forment un tableau. Il voit quelque chose, imaginez, vous regardez un immense tableau, vous savez, dans les grandes galeries, dans les grands musées, il y a un grand tableau, il faut prendre un petit peu de recul pour pouvoir savourer le tableau dans son ensemble, voir l'ensemble de l'image et pas se mettre à 3 cm du tableau pour pouvoir l'apprécier. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je vous ai dit déjà que j'allais rarement dans les musées voir des tableaux et autre chose, et encore moins dans des musées d'art moderne. Je suis plutôt classique, hein. Faites écho. Si je vais dans un musée d'art moderne, avec mon ignorance totale de l'art moderne, et qu'on me met face à un tableau, un Queen Delitzsch ou je sais pas quoi, quelque chose d'extraordinaire comme ça, hein, eh bien franchement, je crois que je ne comprendrai rien. Et j'aurais besoin que le guide, que l'artiste lui-même puisse m'expliquer ce qu'il voulait dire. Eh bien, je crois, et c'est quelque chose que nous partageons tous aussi, que notre meilleure façon de comprendre la Bible, c'est la Bible elle-même qui nous explique, qui est notre guide. Et nous avons des indications dans d'autres textes de la parole qui nous permettent de comprendre quand un texte est plus compliqué. Et je crois que c'est la première source, nous devons aller regarder, puis il y a des sources aussi de contextes extérieurs, culturels, etc., les contextes littéraires et toutes ces choses-là, mais l'ensemble de la parole ne se contredisant pas et apportant des richesses qui nous permettent vraiment... Voilà, donc, pas de panique, on va y aller morceau par morceau, on va regarder donc ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, voir, parce que nous comprenons tous, quand nous lisons un texte de l'Apocalypse, avec ce langage bien spécifique, qu'il y a des symboles, comme dans ce tableau, il y a plein de symboles, et je ne veux pas qu'on rentre dans chaque détail, parce qu'on s'y perdrait et nous n'avons absolument pas le temps, mais qu'on ait cette vision d'ensemble, et qu'on comprenne, et qu'on soit encouragé, et qu'on applique ce qu'il nous enseigne. Alors, morceau par morceau, parce que pour moi ça va.
Oui.
Oui, d'accord. Ça donne envie quand même.
Oui.
Bon, c'est cool. Alors, nous allons commencer avec les deux premiers versets. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Alors, avant de continuer, qui est cette femme? Cette femme, il me semble, dans l'état actuel de ma compréhension de la parole, qu'elle représente ce que beaucoup de commentateurs appellent la communauté messianique dans son ensemble. C'est-à-dire l'ensemble du peuple de Dieu qui sera sous la seigneurie de Christ pour l'éternité. Certains appellent l'Israël fidèle, d'autres l'Israël sauvé plus l'Église, d'autres juste l'Église. Dans tous les cas, ça sera tous ceux qui sont sauvés. Je vous passe les détails, mais vous voyez, elle a une couronne à 12 étoiles sur la tête. Et beaucoup aiment y voir le symbole des 12 tribus et en même temps des 12 apôtres. Ce parallélisme qu'il y a symbolique. Et puis, on voit qu'elle est en train d'accoucher quand surgit un deuxième acteur. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. On a l'impression de lire un conte, hein? Hansel et Gretel ou quelque chose comme ça. Mais c'est profondément dramatique, horrible, quand on se représente ce tableau-là. Que symbolise ce dragon rouge feu? Si vous regardez au verset 9 un peu plus loin, ça nous le dit clairement, c'est Satan. Mais symboliquement, le dragon symbolise l'influence de Satan sur les peuples. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est dit dans l'Ancien Testament, notamment par rapport à l'Égypte, à la Syrie, Babylone, Ésaïe reprend cette thématique-là beaucoup. Le serpent, à quoi vous fait penser le serpent? Voilà, tout simplement. Le père du mensonge. Rouge, la couleur... Voilà, le sang du meurtrier, le rouge, quoi, c'est enfin, toute l'humanité est sous le règne de la mort à cause de lui. 7 têtes, 10 couronnes et 7 diadèmes, pour beaucoup de commentateurs, représentent le pouvoir universel qu'il a sur les rois et sur les royaumes. Mais ces marques de pouvoir sont usurpées, volées, sont des pseudos. Un pouvoir qui est relatif à celui qui doit être les nations avec une verge de fer. Avec une verge de fer, le vrai roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Et que fait Satan dans cette scène? Scène horrible où on voit donc le dragon qui tente de se jeter sur la femme. Et cette scène, il me semble, symbolise l'implacable fureur de Satan vis-à-vis du Messie. Dans la Bible, est-ce qu'on retrouve cette colère de Satan, en particulier contre le Fils? Dès la Genèse, où la postérité de la femme lui écrasera la tête, mais lui blessera le talon. C'est annoncé déjà, on a les prémices de cette bataille. Bethléem, Bethléem, tout simplement, le bain de sang en Matthieu 2,16 qui nous est raconté. La tentation de Jésus dans le désert, où là c'est frontal, et où Satan vient défier Jésus jusqu'à ce que Jésus prenne autorité sur lui. Et puis les multiples complots à Nazareth et autres, où les gens ont voulu tuer en jetant du haut de la falaise Jésus. Bref, derrière chaque tentation, chaque complot, le dragon rouge feu est instigateur. Les causes les plus fondamentales, Satan est derrière. Donc, vous voyez la scène, cette femme qui accouche et le dragon, Satan, qui veut attaquer le Messie qui sort de la femme étant le peuple. Puis il y a cette image de l'épouse et de Christ aussi que je trouve intéressante, mais je voudrais pas aller trop loin. Verset 5, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut élevé vers Dieu et vers son trône. Élevé vers Dieu et vers son trône. Alors vous voyez, il y a l'enfantement de ce fils qui doit paître toutes les nations, une verge de fer, et qui est élevé. Et j'y vois moi personnellement une synthèse, un résumé de l'évangile. Jésus, l'incarnation de Jésus, son triomphe à la croix et son élévation à la droite du Père. Et puis, il y a cette présupposition du coup de victoire sur le dragon. Mais pourtant, on voit juste après ça une fuite. Verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 2160 jours. Alors, 1260 jours, excusez-moi, j'ai mal lu. Alors, est-ce que pour le moment ça va? Vous êtes perdu ou pas? Ça va? Ok. Alors, quel sens pouvait avoir cette phrase pour un chrétien du 1er siècle qui lisait cette lettre? La question qu'il faut se poser, les premiers destinataires. Toujours. Hein. Alors, j'ai lu, c'est pas moi qui ai fait ces recherches-là, je ne suis pas historien spécialiste de la Palestine du 1er siècle, ni même de l'histoire d'Israël. Je crois qu'il y a dans le sens du désert pour un chrétien du 1er siècle un rappel, déjà bibliquement, à la traversée du désert pour la terre promise. Et ça symbolise des choses qui semblent presque antagonistes. À la fois l'épreuve, la tentation, le jugement de Dieu, et puis aussi un lieu où Dieu demeurait fidèle, où Dieu conduit son peuple, pourvoit à ses besoins miraculeusement, par la manne, les cailles, l'eau du rocher, le serpent des reins, les vêtements et les chaussures qui ne s'usent point, etc. Le désert n'est ni un lieu agréable ni confortable, mais un lieu choisi par Dieu où il prépare son peuple pour son plan qui se déroule et la consommation de toute chose. L'Église du 1er siècle comme l'Église d'aujourd'hui traverse des périodes de rude épreuve. Mais Dieu accompagne son peuple par sa grâce. C'est la chose qu'il faut se souvenir, et je pense que Jean voulait que ces chrétiens du premier siècle qui étaient persécutés n'oublient pas que Dieu les accompagne. Et puis il y a ce chiffre, 1260 jours. Que peut-il symboliser? Si je vous dis 1789, vous me dites? Voilà. Si je vous dis 11 septembre 2001, voilà. Si je vous dis 10h02, pour un juif du 1er siècle, 1260 jours, à quoi ça pouvait bien le faire penser? Alors je pense qu'il y a aussi un autre argument pour le symbolisme, c'est que étant dans un contexte de persécution, il fallait que le texte soit compris des destinataires, mais pas trop clair. Non plus. Vous vous souvenez des messages codés pendant la guerre? Les destinataires devaient le comprendre, mais si aussi les ennemis comprenaient, c'était aussi pas top, quoi. Enfin, c'était même dangereux. Alors, il faut faire pour ça un retour au deuxième siècle avant Jésus, où, je sais pas si vous vous souvenez, mais le récit de la Bible s'arrête au retour de l'Exode. Hein? Je parle de la déportation en Babylone. Il y a le retour, Esdras, Néhémie, et puis après nous avons 4 siècles où nous n'avons pas le récit historique inspiré. Mais il y a d'autres livres qui nous donnent beaucoup de renseignements sur cette période historique et qui sont très intéressants au niveau historique, notamment le livre des Maccabées. Et ce qu'on y apprend, et l'histoire bien sûr le confirme, c'est que après les Perses se sont fait rétamer, je sais pas si je peux le dire comme ça, par les Grecs et Alexandre le Grand. Et après le règne d'Alexandre le Grand, l'empire grec s'est morcelé, a éclaté à cause d'une guerre civile en 4 parties. Et il y avait une partie au nord et une partie au sud d'Israël. Il y avait au nord, je me souviens plus, Séleucide, et au sud Ptolémée. Merci, Dieu. Et Israël est pris en étau entre cette guerre civile et devient un petit peu un no man's land. Et au nord se trouve Antiochos Épiphane, qui était au moins aussi fou que Néron. Un grand malade. Mais quand je dis un grand malade, c'est au sens littéral. Hein. Il a déclaré la guerre à Israël d'un point de vue culturel et religieux. Il avait comme objectif d'éradiquer le judaïsme et d'y mettre vraiment le paganisme, le polythéisme et tout ça. Et il a livré une campagne d'attaque particulièrement sur le plan culturel. Cet homme, imaginez le blasphème, est allé faire égorger des porcs dans le temple. Imaginez que vous alliez à la Mecque avec un porc et l'égorger au centre de la Mecque. On est mort, effectivement. Déjà, avec un porc, t'arrives même pas là-bas. Enfin, vous imaginez le blasphème. Il avait mené une guerre parce qu'il avait compris que les Lévites étaient responsables du culte. Et lui, s'il s'est dit, si je tue tous les Lévites, plus de culte, donc je tue le système rituel, sacrificiel, donc je tue cette religion. Et il déclara même toutes les activités cultuelles comme crime contre la souveraineté grecque. Et donc à cette période, s'est déclenchée une guérilla menée par la famille des Maccabées contre Antiochos Épiphane et son armée. Cette période durera 3 ans et demi, soit 1260 jours. Donc quand un chrétien du 1er siècle entend 1260 jours, ça me rappelle cette période d'agression où un homme fou aussi déjà s'est acharné contre nous, mais Dieu nous en a délivrés. Vous voyez le symbolisme?
Ça veut dire que pour comprendre ça, même, il faut qu'on prenne des va dans le canon.
Oui, c'est des éléments historiques. Il y a des événements historiques, et puis même, ça ne se trouve pas uniquement que dans une question de Maccabée, c'est l'histoire. C'est un événement juste historiquement où il y a une période qui ne nous est pas racontée dans la Bible.
À mon avis, il va y avoir une question. Donc, je pense que c'est un autre message
ouais.
Sur la Bible.
Voilà. Ouais. Donc, typiquement, si on s'intéresse encore avec ce présupposé que Jean veut expliquer les causes fondamentales derrière Néron, derrière Antiochos Épiphane, se cache l'acharnement de Satan contre le peuple de Dieu. Entre, d'une part, sa venue, et qui sera jusqu'à son retour à la délivrance. Mais le tableau, heureusement, ne finit pas là, ça continue. Et Jean lève les yeux, et il voit le haut du tableau, ce qui se passe dans le ciel. Et il dit, il y eut une grande guerre dans le ciel. Non, pardon, excusez-moi. Les versets 7-9, hein, c'est ça? Oui, voilà. Et l'une grande, et une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Il y eut une guerre dans le ciel. Qu'est-ce que veut dire là encore Jean? Est-ce qu'il parle d'une guerre loin, quelque part, dans un lieu géographique? Vous savez, un petit peu comme dans le film Thor, où il y a notre monde et puis le monde des dieux, où là, il y a des forces opposées qui se battent, et puis il y en a une qui est transférée après sur l'autre. Là encore, il nous faut l'éclairage de la Bible et ce que la Bible entend par les cieux ou, comme Paul dans l'Épître aux Éphésiens, à cette expression, il appelle les lieux célestes. Ce n'est pas un lieu géographique, mais un terme technique pour parler de tout ce qui englobe la réalité de la dimension spirituelle. Ok, on n'est pas dans un monde qui est que matériel, mais qui est aussi spirituel. C'est pas juste à un endroit. C'est deux réalités ensemble. Nous sommes dans un monde matériel et spirituel, et souvent, nous sommes des êtres humains qui ne voient le monde que par leur sens, le monde sensible, et qui oublient qu'il y a un arrière-monde. Je vous rappelle tout ce qu'on a vu. Jean nous présente donc le combat qui se livre dans cette dimension spirituelle. Et il nous dit quoi? Clairement que Satan est vaincu. Il est vaincu. Le Messie a triomphé. Et la défaite de Satan est un point central pour nous dans les Écritures. Ultimement, par l'œuvre de la croix, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus, Satan est mort, il a vaincu la mort, le Satan et le péché. Et ça nous rappelle, vous vous souvenez, le texte que l'on a vu ensemble quand les disciples, les 70, reviennent de la mission. Quand Jésus dit « Je voyais Satan tomber par anticipation », il sait que sa victoire à la croix est synonyme de victoire sur Satan. En Colossiens 2, versets 14 et 15, Paul nous dit comme ça, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par les croix. » Et quand il dit « publiquement en spectacle », c'est publiquement en spectacle dans les lieux célestes. Humainement, ils ont vu un charpentier qui était cloué sur un bout de bois, et voilà, c'était un fait pour eux historique qui était mineur. Mais spirituellement, publiquement, Satan a vu sa défaite. Tout le monde spirituel a vu la victoire de Christ. Hébreux 4, 2, 14 nous rappelle aussi que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Dieu a jugé et vaincu Satan dans le ciel quand Christ est mort sur la croix. Dans la dimension spirituelle, Satan est vaincu. Et je vous renvoie à l'épître aux Éphésiens où Paul parle beaucoup de la réalité de l'Église sur terre et la réalité de l'Église dans les lieux célestes. Et il nous dit que Christ domine dans les lieux célestes. Ça, tout le monde spirituel est sous ses pieds. Il a fait de son ennemi son marchepied et il siège à la droite du Père. Christ a vaincu. Et cette victoire, nous dit le texte, déchaîne la fureur de Satan. Pourquoi ? Pour deux raisons. Parce que, d'une part, sa sphère d'activité est réduite. Il est vaincu dans le ciel. Et d'autre part, parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Et ça, c'est la suite du texte, je vous laisse lire les versets 13 à 17, qui nous donne ces deux précisions. Celui qui nous accusait devant Dieu ne peut plus le faire. Satan ne peut désormais agir que contre l'Église sur terre. Et c'est pour ça qu'il se déchaîne. Il se déchaîne parce qu'il est vaincu. Et d'un point de vue psychologique, je veux pas faire la psychologie de Satan, on va pas faire de psychanalyse. Mais on peut illustrer ça de la manière suivante, et c'est une illustration qui est bien connue pour expliquer, vous savez, cette tension entre le déjà et pas encore. Il a déjà vaincu, mais c'est pas encore complètement arrivé, parce qu'on vit quand même dans cette période de souffrance, dans cette période un petit peu de latence. En 1944, Hitler était en train de perdre. C'était très chaud pour lui. Les Russes sont à l'est, gagnent du terrain, ils avancent. Les Alliés ont déjà repris l'Afrique du Nord, ils ont débarqué en Italie et le débarquement arrive. La plus grande opération militaire de l'histoire de l'humanité. En 3 jours, plus d'1 million de soldats et des tonnes de matériel ont été déployés sur les plages normandes. C'est comme si Hitler, c'était un petit moustique et que d'un coup, ou un petit agneau, et d'un coup, il y a 1 000 lions en face de lui. Le rapport de force s'est déjà plié. Et le jour où les Allemands ont su que les Américains avaient réussi le débarquement, ils savaient que la guerre était perdue. Ils le savaient. Et beaucoup des généraux d'Hitler ont tout fait pour le convaincre de rendre les armes et de signer un traité de paix. Mais Hitler, dans sa folie, dans sa fureur, sa rage, a engrangé encore plus de haine et a déployé une colère phénoménale. Les camps de concentration ont commencé à marcher jour et nuit. Il y a eu la fameuse bataille des Ardennes où il a envoyé au bûcher des milliers de soldats. Il n'a rien lâché, il a déchaîné parce qu'il savait que sa sphère d'activité était désormais réduite et que la fin était proche. Parce qu'il sait qu'il est vaincu par Jésus, Satan ne peut désormais que se déchaîner sur son peuple. Il utilise toutes les ruses possibles. Persécution, éloigner les églises de la saine doctrine, tenter par toutes les idolâtries possibles, l'esprit de division, etc. C'est violent. C'est violent. Et un chrétien du 1er siècle, la persécution, voir Satan derrière qui se déchaîne, il le savait. Et qu'est-ce que ça devait faire du bien pour ces personnes, comme pour nous aujourd'hui, qui vivons dans la même réalité, de savoir que Christ est souverain, qu'il a vaincu, que Satan est d'ores et déjà vaincu par l'œuvre de la croix. Et que s'il se déchaîne sur nous, il ne peut pas nous arracher à celui qui a triomphé. Comment les chrétiens, donc, sont-ils encouragés à surmonter par Jean? Je vous propose de lire la suite. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils ont vaincu à cause, premièrement, du sang de l'agneau, et à cause, deuxièmement, de la parole de leur témoignage, et troisièmement, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Par ces trois choses-là, ils ont vaincu. Nous avons vaincu Satan sur la base du sang de Christ. Si Satan nous dit qu'on mérite pas d'être sauvé, franchement, on est des voreux, on est des mauvais chrétiens, on mérite pas. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre? Oui. Mais je suis sauvé sur la base du sang de l'agneau. Pas sur la qualité de ma foi, pas sur la qualité de mes œuvres, mais par le sang de l'agneau. Si je suis sauvé, c'est à cause du sang de l'agneau. Si je reçus le Saint-Esprit, si j'ai la vie éternelle, si je ne suis plus sous la colère de Dieu, c'est à cause du sang de l'agneau. Si je fais partie de son Église, si je peux le prier, si je peux le louer en toute liberté, si je peux annoncer l'Évangile, c'est grâce au sang de l'agneau. Et une illustration de la première Pâque. Souvenez-vous, la première Pâque, les Juifs, le peuple juif est en Égypte, sous la domination égyptienne, en souffrance, persécuté, encore, pour le contexte de la première Pâque. Et imaginez un juif qui est plein de foi, qui est fort, qui est mature, et un autre à côté de lui qui est tout faible, qui est vraiment fragile, qui a peur, qui est terrorisé par les Égyptiens. Et ils sont là et disent, oh là là, mais j'espère que Dieu, il y a la dixième plaie qui va arriver, l'ange de la mort va passer, et j'ai peur que moi et mon premier enfant meurent. Mais à cause du sang de l'agneau sur la porte, son enfant est épargné. Pour celui qui est faible comme pour celui qui est fort. Parce que c'est sur la base du sang de l'agneau qu'ils ont vaincu, qu'ils sont sauvés. Comprenez? Deuxièmement, ils ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, dit la version Semeur, qui est assez claire aussi. N'en déplaise. Que devaient se dire les chrétiens d'Asie du 1er siècle? Je ne sais pas si on réalise un petit peu. Si Satan est vaincu dans les lieux célestes, pourquoi Dieu le laisse-t-il se déchaîner sur terre, et notamment contre son Église? Pourquoi? Parce qu'il y a un témoignage à rendre. De quelle façon l'Évangile progresse-t-il dans nous? Par les paroles de notre témoignage. À cause du témoignage qu'on rend à l'Évangile. L'évangélisation, ça va peut-être vous sembler fou ce que je vais vous dire, mais l'évangélisation ne progresse pas autrement que par l'annonce de l'Évangile. Et si je dis ça, c'est parce que beaucoup pensent que l'évangélisation va progresser par l'œuvre humanitaire, l'action sociale. Toutes ces choses découlent de l'évangélisation, découlent de l'Évangile. Mais l'action sociale, l'œuvre humanitaire, ce n'est pas l'annonce de l'Évangile. Et c'est lié, c'est comme, je dirais, la locomotive et l'annonce de l'évangile, et de cette bonne nouvelle découle aussi tout plein de choses. Mais c'est l'annonce de l'évangile. Pourquoi Dieu laisse-t-il Satan se déchaîner ainsi sur son église? Parce que Dieu veut sauver encore beaucoup d'autres personnes et que l'évangile doit être prêché à toutes les nations. Et c'est pour cela que l'église doit souffrir encore pour l'évangile. Jésus disait, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. Les chrétiens ne sont pas appelés à combattre Satan par l'épée, par la politique, par, je sais pas ce que vous voulez, mais la victoire sur Satan, nous est dit clairement, c'est par le témoignage que l'on rend à l'évangile. À Carson de conclure en disant, en conséquent, la seule façon pour nous de perdre cette bataille est de rester muets. Notre silence assure, dans une certaine mesure, la victoire de Satan. Ce n'est pas Dieu qui décourage l'Église d'évangéliser. D'accord ? Ce n'est pas Dieu qui nous décourage d'évangéliser, c'est Satan. Ok ? Parce qu'il ne veut pas qu'on gagne. Et si nous sommes tous motivés pour évangéliser, lisons la suite. Ils ont vaincu Satan en n'aimant pas leur vie jusqu'à la mort. Jean, qui est persécuté, écrit à des chrétiens, des gens qui sont persécutés. D'accord ? Et il leur dit, de la part de Jésus, plutôt mourir que de ne pas pouvoir évangéliser. Je trouve ça assez choquant, et ce texte reflète un point de vue vis-à-vis de la mort totalement différent. Ah, oui, il est branché. Il doit traîner par terre, c'est l'abattement, tu vois, le transfert. Voilà, c'est celui-là. Je continue. Un point de vue sur la mort qui est assez différent du nôtre. Paul, quand il est persécuté et emprisonné, il dit « Christ est ma vie et mourir m'est un gain ». Vivre l'évangile et l'annoncer, c'était tout ce qui animait Paul. Le menacer de mort était alors donc inefficace. Parce que si mourir c'est un gain, on menace de mort, bon ben c'est 100% bénéfique pour lui quoi. Les apôtres voulaient vivre et mourir pour l'évangile. Et aujourd'hui encore, dans certaines parties du monde, la fidélité à Jésus est une affaire de vie ou de mort. 160 000 chrétiens sont torturés et assassinés au nom de leur témoignage chaque année. 2 millions de chrétiens sont morts en martyrs au Soudan au cours des 15 dernières années. Statistiquement, un chrétien sur 200 sera tué à cause de sa foi cette année, ce qui fait des chrétiens la population numéro 1 au top des victimes de persécution dans le monde. C'est une réalité. Nous jouissons, nous, d'une liberté, d'un confort tel qu'on oublie et qu'on a du mal à se rendre compte de cette réalité. Mais en France aussi, dans certains milieux, tout est fait pour produire le silence des chrétiens. Certains collègues que je connais ont été menacés de perdre leur emploi, sont victimes de moqueries, de sarcasmes, de sécularisme. Tout pour leur faire taire. Un ami qui a implanté une église m'a raconté qu'un jour sa fille est venue me voir et lui a dit que pendant ses 4 ans de primaire, tous les jours, des gamins lui volaient son goûter et lui crachaient dessus. Elle avait eu aucun ami pendant 4 ans. Pourquoi? Parce que son père était pasteur. Cette petite a été persécutée à cause de ça. Et quand son père lui a dit, pourquoi tu m'en as pas parlé? Je parlais pour la maîtresse, on m'en a parlé. La petite a dit qu'elle voulait pas lui dire parce qu'elle voulait pas qu'il abandonne. Vous imaginez? Alors, c'était à la primaire, quoi. Elle n'a pas voulu parler parce qu'elle voulait pas que son papa abandonne. Elle savait que si elle lui disait qu'elle était maltraitée tous les jours à l'école, son père abandonnerait. Mais elle voulait pas que son père abandonne. Waouh. Ah, on a plus que de la graine de disciple, hein. Je suis un guignol à côté, je vous dis. Et d'une autre manière, je pense qu'aussi notre confort et notre bien-être, dans une certaine mesure, sont vraiment un piège pour nous. Toutes les idoles qui sont véhiculées dans notre culture sont des pièges qui nous font faire taire, parce que la sécurité est quelque chose de tellement important. Pourtant, Jésus nous rappelle que prendre sa croix, mourir à soi-même, c'est quelque chose de radical, quelque chose qu'on ne peut pas annoncer. Jésus nous demande d'engager pleinement notre volonté, fortifiée par le Saint-Esprit, étant prêt à vivre et mourir pour l'Évangile. Il n'y a pas d'autre engagement possible, ni de demi-mesure. Et nous devons être prêts. Et vous savez, moi personnellement, je prie régulièrement. Je ne vais pas vous dire tous les jours, mais vraiment régulièrement. Parce que j'ai de plus en plus ça à cœur. Je prie, je dis Seigneur, le jour, parce que je vais être pasteur, socialement je vais être affiché clairement comme chrétien évangélique, ça va être même mon statut public, quoi, voilà. Je suis dans l'implantation d'église, je ne veux pas négliger les souffrances. Et Seigneur, je t'en supplie, prépare-moi pour que quand je serai dans la souffrance, je demeure fidèle et je t'honore dans ce que je vais faire. Parce que j'ai peur de ne pas y arriver. Mais je crois que j'ai la victoire par le sang de l'amour et que j'aurai la victoire en témoignant et en persévérant. Le renoncement à soi fait partie intégrante de la nature même de notre appel à suivre Jésus. Pour conclure, voudrais-je vous dire que Satan est rempli de fureur car il sait qu'il lui reste peu de temps. Alors comment peut-on enrayer un mouvement dont les membres par la grâce fortifiante de Dieu, se savent justifiés et sauvés, annonçant leur message qui peut sauver des vies et qui sont prêts à mourir à leur intérêt personnel afin de servir le Dieu vivant. Comment? C'est impossible et Satan le sait et c'est pour ça qu'il déchaîne. Je prie. Thank you.